Et là là, comme dirait l'autre, c'est pas évident comme rentrée encore aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être à l'écoute de cette émission. Isabelle avec vous pour les deux prochaines heures. On va essayer de vous faciliter un peu la vie. Oh, on dirait que je copie le slogan d'un parti politique. Hein? C'est dans l'air du temps.
Il y a trop de mots.
Voilà. Merci à mes invités qui se sont rendus malgré. C'est vrai qu'il faut vraiment que je remercie tous les invités qui, déjà, là, au cours des derniers mois, ça a été compliqué. Mais tu sais, moi, je dis aux gens, venez à mon émission parce que c'est vrai qu'à l'antenne 98.5, j'en profite pour le dire parce que c'est notre grand lancement de saison aujourd'hui. Toutes nos chaînes, toutes nos stations de Cogeco, plus tard en journée. Mais c'est vrai qu'on s'en parle avec l'équipe. Chaque fois que j'ai des invités, je me dis. Merci de nous aimer pour vous déplacer parce que des fois, ça leur prend 2 heures de se rendre ici pour venir vous parler à vous, les auditeurs, vous aussi, des fois souvent pognés dans votre voiture. Alors, on se dit tout le temps, mon Dieu, qu'on est reconnaissant, on est très reconnaissant à tout le monde de prendre la peine de venir ici. Moi, je privilégie, bien sûr, le fait de vous recevoir. Ce matin, j'ai Alain McKenna, qui est journaliste techno-blogueur pour lesaffaires.com. Merci, Alain, d'être là.
Ça fait plaisir.
Jacques Létourneau est président de la CSN. Merci, Jacques, d'être là. Combien de temps, tu disais?
Plaisir. Ben, juste la maison, l'école, sur 4-5 kilomètres. Ça a pris 1 heure ce matin. Sur ouais. L'île. Là.
Juste sur l'île de Montréal.
Oui, juste
même
pour l'école.
Pas sortir.
Juste pour l'école.
Ouais. Ouais. Mario Côté, conseiller en ressources humaines agréé, consultant en gestion et en gestion des ressources humaines. Merci Mario d'être là.
Bonjour.
Et ça tombe bien parce qu'on parle de télétravail avec vous ce matin. Ah. Et on parlait hier, on parlait de congestion, on parlait de comment se faciliter un peu la vie. C'est vrai parce que quand on regarde la rentrée, c'est dur, c'est difficile. Ce matin, les gens de Bel-Oeil qui passaient le tunnel, ça a été. Tu sais, tu te dis, comment ça se fait que les travaux... Il y a un auditeur qui a appelé Paul Arcand. Comment ça se fait que les travaux sont faits là, à la rentrée? Ils ne pouvaient pas faire ça cet été. Puis Paul disait, ils s'en foutent complètement. Puis tu as envie de dire, c'est vrai qu'on est du petit change pour les gens qui planifient tout ça. Mm-hmm. Mais en même temps, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est un peu notre débat d'aujourd'hui, notre discussion d'aujourd'hui au cours de la prochaine heure. Moi, je me souviens, il y a 25 ans, il y avait des profs là, de la Téléuniversité du Québec, la TELUQ, de l'UQAM... Plein de gens là, très, très expérimentés, studieux et analytiques qui avaient fait des études. On peut les retrouver, ces études-là, et elles sont confirmées encore par l'Organisation des Nations Unies. Il y en a plein. Il y a les États-Unis, la Belgique, nommés plein de pays qui ont avancé sur quoi? Le télétravail. Je sais pas ce que ça prend au monde, aux employeurs, au gouvernement, aux instances, pour être un peu plus ouvert au télétravail. Tour de table de mes invités, comment ça se fait? Je commence avec Mario, parce qu'il est en ressources humaines depuis longtemps aussi. Comment ça se fait qu'on parle, on fait du bruit de notre bouche depuis 25 ans pour dire le télétravail, ça serait une solution. Qu'est-ce qu'on attend?
Ouais, c'est un défi, hein, puis on y réfléchit depuis très longtemps. Par contre, moi, je trouve que les petites entreprises, là, les entreprises à 40, 50 employés, on commence à bouger. Récemment, là, j'ai participé à l'émission Banc Public, et puis on parlait d'une firme de marketing de la région des Laurentides, Rouge, pour la nommer, où est-ce qu'on permet à une de leurs employés d'aller travailler à Paris 6 mois par année, en télétravail, en contact avec la technologie. Il y a plein d'enjeux technologiques et il y a quelques embûches, parfois juridiques, parfois fiscales, qui font que c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais je suis d'accord avec toi, Isabelle, les joueurs à l'international avancent à ce niveau-là. Puis il me semble qu'on avance à pas de tortue ici. Là.
C'est incroyable. Ouais. Quand on regarde ça, je lisais là, qu'au Québec... D'ailleurs, je tiens quand même à préciser, le Parti québécois propose, il souhaite que 200 000 personnes de plus, on estime qu'il y en a à peu près 700 000 en ce moment, des Québécois là, qui se partagent entre la maison puis le bureau, on souhaite qu'il y ait 200 000 Québécois de plus qui puissent travailler à la maison d'ici 2025. Ça prend 7 ans. Ça va être long, mais quand même. Autant au privé qu'au public. Idéalement, on dit qu'à peu près quand le quart des travailleurs, dans beaucoup de pays, je parlais de la Belgique ou des États-Unis, le quart des travailleurs font du télétravail là-bas. Je veux dire, on est capable de faire ça, Jacques,
plus.
Les tourneaux?
Mais
souvent, les syndicats, comment vous avez vu le télétravail chez les syndicats?
C'est pas mal vu. En Europe, d'abord, il y a un décalage à peu près d'une vingtaine d'années avec l'Europe. On parlera pas des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est un autre débat. Dans le fond, souvent, on est un peu calqué sur le modèle américain, c'est ça le problème.
Sauf là.
Mais en même temps, moi, je vais vous parler de réglementation. Et c'est ça la différence importante avec l'Europe, c'est qu'il y a une réglementation. Es-tu respecté, pas respecté? Ça, c'est un autre débat. parce que ça induit le télétravail, des avantages bien sûr, mais aussi des inconvénients. Parce que on va parler d'isolement, on va parler de qu'est-ce qui s'applique en termes de normes du travail, notamment en matière de santé et sécurité au travail. Quand vous travaillez dans un building, souvent il y a des travaux qui vont se faire au niveau de l'ergonomie. Vous travaillez sur un poste de travail, on va s'assurer que vous n'êtes pas blessé à force de travailler ou de poser toujours les mêmes gestes. Quand vous le faites
à domicile.
Vous pouvez
faire ça chez vous aussi, là.
Oui, non, vous pouvez le faire, mais quand vous parlez d'appliquer une réglementation, que ce soit par rapport à des avantages sociaux, des conditions négociées ou autres, l'Europe a mis en place des mesures cadres. Après ça, c'est aux États de les appliquer, puis c'est aux partenaires, soit patrons, syndicats, de faire en sorte qu'on va les appliquer. Mais il y a effectivement un décalage avec...
Avec 20 ans?
Les premiers accords cadres en Europe, c'est au début des années 2000 sur la question du télétravail. D'ailleurs, il y a une étude. Si les gens s'intéressent, il y a une étude de l'Organisation internationale du travail qui porte sur ces différentes expériences-là. Puis moi, je pense qu'il faut s'en inspirer parce que c'est un peu inévitable. Le télétravail, même notre réalité à nous, on en parlait tantôt. Un président de centrale syndicale, il y a 25-30 ans, passait 50 heures dans ses bureaux, alors qu'aujourd'hui, vous pouvez, avec votre téléphone, commencer à travailler à 5 heures le matin, corriger des communiqués de presse et continuer le soir. Il y a un autre enjeu, on en parlera peut-être plus loin, c'est, il y a un sociologue de l'Université Laval, moi je trouvais ça cute, il appelait ça la disparition des temps sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? La réalité entre le travail et le non-travail, entre la vie privée et votre travail. Quand tu te lèves le matin, tu t'en vas travailler à l'usine, ou tu t'en vas travailler à l'école ou à l'hôpital, ben tu commences à 9h, puis tu finis à 5h, tu travailles de 8 à 4, ou peu importe. Là, quand tu travailles chez toi, ou quand tu travailles avec ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire des téléphones ou portables,
ou des tablettes,
ben, souvent, tu travailles toute la journée.
Ouais.
Et tu commences quand, tu termines quand.
Et ça, on va en parler de cet espace de plus en plus restreint entre les deux, là, parce que et c'est sûr que notre discussion porte sur le télétravail, mais ici, on prend pour acquis que tout le monde peut télétravailler. On est conscient que c'est pas le cas. Tu parlais de l'usine, il y a des travailleurs qui sont sur des chaînes de montage. C'est clair que tu transporteras pas ça chez toi. On est tout à fait conscient.
Un préposé aux bénéficiaires.
Oui, on comprend. Les infirmières doivent être sur place. Même si on aurait peut-être avantage à regarder des soins de santé beaucoup plus donnés à domicile que de dire aux gens, venez donc à l'hôpital ou venez donc à la clinique.
Il y a des initiatives de télémédecine où on peut parler à un médecin par son ordinateur.
Alain McKenna vit à Sainte-Julie.
Oui, pas tant que ça.
Pas de trafic.
Oui, parce que...
Non, pas du tout.
Mais je dis chanceux parce que tu arrives à télétravailler.
Oui, non, ça me donne.
Et donc, tu évites quand même au moins quoi. Explique-nous comment tu le vis, ton télétravail. Depuis combien de temps? Comment tu t'organises? Pour toi, ça a été vraiment la solution à la congestion routière.
Depuis longtemps, j'ai été très autonome depuis 2001, je crois. Donc, ça m'a permis de développer des habitudes. Évidemment, j'ai un travail très dématérialisé. Je livre des textes à des médias. Je viens ici de temps en temps. Donc, à ce moment-là, évidemment, je me farcie un peu plus de trafic, mais dans la semaine normale...
Merci, je l'apprécie.
Ça fait plaisir. Puis de toute façon, c'est un marché en soi, parce que les gens pris dans leur auto écoutent la radio.
Ouais.
Il y a vraiment un besoin là aussi. Mais dans le quotidien, ça demande une certaine discipline. Ça demande un poste de travail à la maison qui est assez bien adapté. Justement, on parle d'ergonomie, de choses comme ça. Il faut avoir un environnement de travail quand même à la maison pour travailler.
C'est pas dans la salle à manger ou sur la table à cuisine ou sur le comptoir, là.
Non, puis quand je vois souvent on voit des articles, des profils de gens qui travaillent de leur garage, des choses comme ça, puis ils ont une table plate avec un laptop plat, avec leur clavier plat, un pavé tactile, puis comme, pas sûr que ces gens-là vont faire du télétravail mais bien longtemps, parce que c'est pas la meilleure position. Tu sais, un poste de bureau, c'est vraiment un ordinateur complet avec un clavier idéalement ergonomique, avec des outils qui permettent justement d'être confortable longtemps, une chaise, ça peut devenir assez compliqué assez rapidement.
Oui, mais il y a des spécialistes là-dedans. Là. Tu te payes une heure. J'en ai reçu là, des gens vraiment des ergonomes.
Il y a des coûts à ça. Hein?
Oui, mais regarde.
Le
il y a des coûts à tout. Monsieur les tourneaux de la
saison. Mais quand vous travaillez pour une entreprise comme Vidéotron et que vous êtes dans les lieux physiques du travail, vous pouvez être sûr que Vidéotron va s'assurer que les postes de travail sont ergonomiques. Alors que quand vous n'êtes pas dans les lieux physiques et que vous le faites en télétravail à l'extérieur, ça ne veut pas dire... D'abord, Vidéotron ne se préoccupera pas de ça. Donc, ça va être la responsabilité du travailleur autonome de s'en assurer.
Oui, mais ça peut être notre responsabilité ou ça peut être une responsabilité partagée, Alain.
Exact. Parce que j'allais dire, il y a aussi des bénéfices pour l'employeur parce qu'il y a des économies à avoir des gens en télétravail. Donc, il y a un équilibre à trouver là. Puis évidemment, c'est à l'employé et à l'employeur de s'en parler puis de trouver le terrain.
Bien sûr, il y a certaines entreprises qui ont imposé le télétravail pour faire des économies de location de bureaux au centre-ville de Montréal également.
Quelle compagnie, par exemple? On veut des noms.
Je ne veux pas donner de nom.
On veut des noms.
Disons, une entreprise de télécom. Je m'en tiens à ça. Je ne veux pas me faire d'ennemis ici ce matin. qui ont imposé
j'ai
ça.
J'ai cru
à
entendre Jacques Létourneau susurrer de tennis, non?
Non. Il y a moins de lettres que ça dans le nom.
Ah, belle! Belle! C'est qui?
Il y a un T, mais je ne vais pas plus loin que ça. Ouais. Mais donc, imposer ça aux travailleurs, pour certains travailleurs, ça va. Pour d'autres, c'est très difficile de composer avec le télétravail pour des raisons de socialisation, là, pour des raisons de travail d'équipe, collaboration.
Marie m'a écrit tout à l'heure pour me dire, moi, là, je suis en télétravail depuis plus de 15 ans. Le télétravail facilite l'équilibre travail-famille. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais on pourra en parler, l'équilibre famille-travail. Ça élimine les pertes de temps, le stress lié à la circulation, aux tempêtes de neige. Mais, un gros mais, il faut un bureau fermé, loin des aires publiques de la maison, éviter de sortir le travail du bureau et ne pas penser qu'on peut travailler et faire toute la lessive, le ménage, les repas. Sinon, attention au surmenage. J'ai dit, appelez-nous Anne-Marie. Elle ne peut pas nous appeler. Elle travaille trop fort. Mais elle dit, juste un point, votre invité en ce moment parle d'ergonomie. C'est parce qu'on a une petite conversation sur un courriel en même temps que je vous parle. Et on fait tous plein d'affaires en même temps.
Multifonction.
Je pense que le télétravailleur doit être responsable de son bien-être, dit Anne-Marie. J'ai bien aménagé mon bureau. J'ai une assurance supplémentaire pour mon matériel professionnel. L'employeur ne va pas venir mesurer la hauteur de mon écran. Ça, c'est clair. Donc, elle le voit comme sa responsabilité. Puis c'est sûr que souvent, il y a des télétravailleurs qui vont choisir. Toi, tu es à ton compte, Alain, d'une certaine façon. Tu es comme un pigiste.
Oui.
Tu n'as pas une entreprise en particulier pour laquelle tu travailles. Tu en as plusieurs.
Non. Puis je peux dire, pour avoir vécu aussi dans une entreprise, comme un cadre, que ne pas avoir le vice-président ou la vice-présidente sur les épaules, qui est juste. Jette un rapide coup d'œil pour être sûr que tu es au bureau à la bonne heure, ça fait une grosse différence. Parce que c'est purement culturel, rendu là. C'est de savoir si les employés sont à leur poste, ça veut dire qu'ils travaillent. C'est une drôle de logique parce que. On parle de télétravail, de travailler à la maison, mais il y a un gros phénomène qui est émergent, qui est peut-être pas, qui concerne pas tout le monde, mais qui est les espaces de coworking, les espaces, les bureaux, comme WeWork, comme le café au centre-ville, j'oublie le nom, où on prend un espace de travail, un bureau avec du Wi-Fi et une machine à café, puis on le loue. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui font ça, ils travaillent pas
juste
de chez eux.
Juste pour l'espèce de on parlait d'isolement, ces gens qui parlaient d'isolement, c'est vrai que ça peut être un risque si tu travailles toute la semaine en télétravail. On dit d'ailleurs, puis effectivement, plusieurs études qui le précisent, le télétravail sur une base systématique à temps plein, là, c'est peut-être, effectivement, il peut y avoir des écueils. Un bon mélange des deux, tu sais, un deux jours semaine, déjà là, pour nos problèmes à nous, là, à Montréal ou dans la grande région ou au Québec, ça serait peut-être de dire, OK, regardez, on va s'ouvrir à ça, peut-être pas cinq jours, un petit deux jours, ça vous va-tu?
Je pense qu'il n'y a pas de modèle unique. À la CSN, on me racontait, il y a une vingtaine d'années, quand les premiers portables sont apparus, là, les gens qui font de la recherche, on fait ce débat-là. Est-ce qu'on a besoin d'être dans les bureaux et déranger peut-être à chaque heure alors qu'on a à travailler sur de la production de textes de mémoire? Et les gens ont expérimenté le principe du travail à maison, donc du télétravail, mais ils se sont aperçus à un moment donné que le rapport des échanges avec les autres collègues de l'équipe, ça manquait. Donc, ils ont trouvé une façon de le faire peut-être en équipe le lundi, au bureau le vendredi matin, puis dans la semaine. Donc, une espèce de formule hybride où, effectivement, tu vas télétravailler chez toi et tu vas être en dynamique de travail en équipe. J'ai l'impression que, dans le fond, il n'y a pas de modèle unique. Il faut vraiment réfléchir en fonction des catégories d'emploi. Puis comme vous l'avez dit tantôt, il y a des secteurs d'activité où ça ne s'appliquera jamais. Il y a des catégories d'emploi où ça ne s'appliquera jamais.
Donc, il faut tenir compte des besoins de l'individu, de l'organisation et de ce qu'on a à livrer comme marchandise également. Parce que ce qu'on se disait tantôt, si j'ai un échéancier pour lundi prochain puis que normalement, je suis en télétravail, mais il se pourrait que j'aie à rentrer au bureau. Puis là, ce n'est pas mes besoins à moi qui devraient primer. C'est les besoins du livrable pour le client à desservir en bout de ligne. Donc, ces éléments-là sont importants. J'ai noté, moi, disparition des temps sociaux. J'avais pas l'expression française. On parle de blurring en anglais, là, cette espèce de diffusion des frontières entre le travail et la vie personnelle. C'est un enjeu intéressant, ça, par exemple.
On va d'ailleurs enchaîner là-dessus, entre autres. Après la pause, on va aussi demander à nos auditeurs comment ils vivent le télétravail. Si vous êtes un télétravailleur, dites-nous comment vous vous êtes organisé, depuis combien de temps, est-ce que c'est votre initiative ou celle de votre employeur? Et surtout, s'il y a des employeurs des patrons là, qui nous écoutent, bien sûr, dites-nous, est-ce que vous en avez mis en pratique là, justement des règles de télétravail? Est-ce que vous le permettez? Si vous n'êtes pas pour ça, vous avez le droit aussi. Là. Dites-nous pourquoi, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de l'abus aussi. Les télétravailleurs sont pas tous vaillants. Il y en a qui doivent aussi considérer que ça peut être l'occasion de faire bien d'autres choses dans ta journée. La notion de livrer aussi. Tu as des gens autonomes, puis tu as des gens qui ont besoin d'être encadrés. Puis ça, des fois, tu n'es pas forcément la meilleure personne pour juger de ça. Alors, c'est un gros sujet, le télétravail. C'est vraiment passionnant. Moi, c'est un de mes sujets favoris. 514-790-9850. Vous pouvez nous joindre sans frais partout au Québec en faisant le 1-866-790-9850. À tout de suite. On parle de télétravail ce matin. On sait depuis longtemps que c'est la solution pour désengorger nos routes, décongestionner notre réseau. On le sait, c'est pas la seule solution, mais c'est certainement une solution qui, si on la mettait en pratique demain matin, aiderait à nous donner pas mal d'air et aurait évité ce que vous vivez peut-être encore en ce moment même, c'est-à-dire de la congestion, les deux mains sur le volant, puis la rage au ventre parce que tu dis « c'est pas vrai que je vais encore passer une heure et demie de ma vie dans le trafic ». On en passe beaucoup des heures comme ça, qui sont des heures gaspillées. Et puis, d'un point de vue productivité, on va en parler avec nos invités, Alain McKenna, Jacques Létourneau, Mario Côté. La productivité, surtout pour M. Létourneau, président de la CSN, c'est une valeur importante pour les employeurs. C'est sûr que c'est toujours considéré. Et probablement qu'au Québec, on s'est dit, déjà qu'on a un peu de misère avec la productivité, on s'est dit, si on ouvre le télétravail, on va certainement y perdre au change. Est-ce que c'est ça la réflexion pensée qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de télétravailleurs?
Non, je crois pas que l'absence ou le fait qu'il y ait un décalage entre nous et l'Europe, par exemple, ça a un impact aussi direct sur la productivité. Parce que le télétravail, c'est un aspect important quand on aborde la question, mettons, de la conciliation famille-travail et des rapports que les individus entretiennent au travail. Mais c'est pas la seule, là. Tantôt, on disait, tu peux faire du télétravail à la maison, mais si tu le fais avec deux jeunes enfants de 2 et de 3 ans, puis tu n'as pas de place en CPE, ça peut être bien difficile. Ouais. Longtemps, on a prêché la semaine de 4 jours. En fouillant un peu le dossier, je me suis aperçu qu'il y a 20 ans, en campagne électorale, Bernard Landry disait, faut viser la semaine de 4 jours pour permettre la conciliation famille-travail, pour permettre une meilleure efficience, efficacité au travail, tout ça. On s'est aperçu que dans certains cas, ça fonctionnait, mais dans d'autres, c'était pas possible.
Ouais. Donc, la France qui est allée dans le 35 heures, qui a des,
absolument.
Ils sont revenus là-dessus.
Absolument.
Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas vrai que tous les travailleurs français pouvaient travailler 35 heures. Sauf que ça avait été beaucoup incorporé. Mm-hmm. Puis nous aussi, on l'a comme un peu suivi. Si on s'est dit, les syndicats ont beaucoup poussé là-dessus, mais ça peut pas toujours être possible.
Non, c'est pas toujours possible et ça dépend justement des secteurs d'activité.
On a Jean-François qui nous appelle. Bonjour, êtes-vous un télétravailleur, Jean-François?
Ah, bonjour. Moi, c'est télétravail en dress, je vous dirais. Il y a 10 ans, j'ai commencé à être gestionnaire et puis dès le début, j'ai été confronté avec cette notion-là où j'avais des employés qui... Parce que au même moment, on introduisait le télétravail dans l'entreprise. Ben, c'était nouveau, ça semblait tout beau. Et les gens avaient une volonté de faire le plus de télétravail possible. Nous, on avait un ratio à respecter. Et même à ça, ben, tu sais, la nature étant ce qu'elle est, on essaie toujours de pousser pour en avoir un peu plus. Et bon, moi, je respectais un peu leur désir de vouloir télétravailler. Dans mon cas à moi, dans le cas de mon équipe, c'était plus ou moins réalisable, mais bon, j'essaie de le faire. Moi, personnellement, en tant que gestionnaire à ce moment-là, je détestais le télétravail parce que j'avais découvert très tôt que c'est un bouffeur de temps énorme être à la maison si on n'est pas à l'avance organisé pour procéder au télétravail. Donc, j'ai repoussé pour moi-même les opportunités de faire du télétravail. J'étais toujours du bureau. Mm-hmm. Et puis, finalement, cet été, j'ai démissionné de mon travail après 10 ans. Et puis, bon, ça a été, étant donné mon âge un peu plus avancé maintenant, ça a été plus difficile de me réintégrer dans le marché du travail. J'ai décidé d'y aller le tout pour le tout et de démarrer mon projet d'entreprise que j'avais depuis 10 ans. Ce qui fait que là, depuis environ un mois, je suis sur mon projet d'entreprise. Je travaille 100% de la maison. Mais là, j'ai un petit bébé en plus qui va à la garderie. Des fois, je suis déchiré. Je la garde ça avec moi pour en profiter. C'est l'été. C'est là que je vois que vraiment, le télétravail, il faut être ferré, préparé d'avance pour pouvoir le réaliser de façon productive, je dirais. Parce que même à ça, on est à la maison, on fait-tu du ménage ou on travaille, on aide-tu, on avance-tu? La conjointe va être contente quand elle va arriver le soir. Là, vous voyez un peu la dynamique. Là. C'est pas simple.
pour être passé par cette expérience-là, moi aussi, il y a 13 ans, quand je suis devenu consultant, ça m'a pris une année, prendre la dynamique pour faire la différence entre ça, c'est l'air de bureau, puis ça, c'est la maison, puis on transfère pas d'un à l'autre comme ça facilement, là. Faire une brassée en même temps que je travaille un dossier, ça va, mais faire, tu sais, le ménage de la maison en même temps, c'est impossible.
Non, c'est sûr. Mais Jean-François avait une dimension supplémentaire. Je sais pas s'il est toujours là, mais oui, il y a ça, mais il y a aussi son bébé d'entreprise, justement, ouais, là. Partir une entreprise, je veux dire, c'est 100 heures par semaine. Tu comptes pas ton temps parce que tu y penses la nuit, c'est quelque chose, se partir une business. Mm-hmm. C'est au-delà du télétravail.
Ouais. Et chercher les clients, tu sais,
c'est vraiment particulier. Mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance, Jean-François. Oui. Lâchez pas. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour.
Êtes-vous en télétravail?
J'ai fait du télétravail par le passé, mais moi, depuis un an et demi maintenant, j'ai ouvert mon propre espace de coworking, un peu comme M. McKenna parlait.
Oui.
Parce que, ben, premièrement, comme on disait, travailler à la maison, tout l'isolement, tout ça. Moi, je suis un travailleur autonome. Pour moi, c'était une façon, mais c'était une façon aussi de permettre pour aider, oui, les entreprises en démarrage, ces choses-là. Mais nous, on est situé à Valleyfield. Et je connais beaucoup de gens qui voyagent, qui c'est des navetteurs, soir et matin, puis je l'ai fait, moi, travailler au centre-ville, c'est 1h, 1h30, soir et matin. C'est extrêmement long, puis souvent, ben, on est capable de travailler à distance. Par contre, ce qui est déplorable de travailler à distance, ben, c'est toujours d'être seul. J'ai dîné longtemps avec mon chien, c'est plaisant, mais...
Pas jasant, un chien.
Exactement. T'sais, non, mais il y a des avantages à ça, mais aujourd'hui, je l'amène à l'espace de coworking. Mais pour beaucoup de gens, dans le fond, c'est une façon d'avoir un espace de travail à 5-10 minutes de chez eux, d'être capable de faire une coupure entre le travail et la maison.
C'est ça.
Et en même temps, ben de pas être isolé, d'avoir, c'est pas des collègues, c'est d'autres entreprises, c'est d'autres gens qui ont chacun leurs entreprises ou chacun qui travaille pour d'autres des grandes entreprises. Mais en réalité, ça crée une communauté.
Vous avez, Patrick, décrivez-moi un peu l'espace que vous avez créé. Vous avez combien de pieds carrés et combien d'entreprises? Ben, visiblement, ça a créé, le besoin a été...
D'autres, on a 3000 pieds carrés, mais c'est beaucoup des bureaux privés.
Okay.
Dans une première phase, je sais qu'à Montréal, on voit souvent des grands espaces ouverts, des grandes tables avec une vingtaine de personnes, mais c'est sûr que dans le contexte, nous, plus en région, ben, c'est pas quelque chose qui était vendable, qui était vraiment fonctionnel. Souvent, les gens vont aimer avoir plus des bureaux individuels. Puis surtout, c'est une question de coût.
Ouais.
Le coût d'avoir un bureau individuel n'est pas beaucoup plus cher que d'avoir un espace libre. Bon, ben, les gens optent pour ça. Fait qu'on offre de tout, mais dans le fond, l'idée, c'est on en a qui sont vraiment au mois, mais il y en a qui viennent à l'heure, à la journée, tout dépendamment de leurs besoins. Il y en a qui c'est des travailleurs à domicile, mais pour rencontrer des clients, rencontrer...
Vous avez des salles, j'imagine, de conférences où les gens peuvent être plusieurs. Et donc, êtes-vous content là, de la réponse des clients? Vous en avez autant que vous pensiez?
La réponse est excellente. On prévoyait... Dans le fond, on est pratiquement plein là, après un an et demi. C'est excellent, dans le fond, pour un concept qui n'existait pas du tout là, dans notre région.
Ah non, c'est une très bonne idée. Très, très bonne idée.
On s'entend avec ça.
Ah ben c'est super. Ben bravo, Patrick. Merci beaucoup de votre appel. J'ai plein de gens qui m'écrivent. Je vais lire vos courriels pendant la pause. Ça nous donnera l'occasion de prendre une petite pause très, très rapide. On revient tout de suite après. On parle du télétravail ce matin. On se demande d'ailleurs pourquoi c'est pas plus mis de l'avant dans les entreprises au Québec. On est très en retard. Et le PQ souhaite que 200 000 personnes de plus puissent travailler de la maison d'ici 2025. C'est dans 7 ans, au public, au privé. On aimerait qu'idéalement, le quart des travailleurs télétravail, ça peut se faire une journée semaine, 2 jours semaine. Vous y allez un peu selon ce que votre employeur peut vous permettre de faire aussi. Il y a plein de gens là, qui me disent « J'ai travaillé en télécommunication, Sophie m'écrit ça, et le travail à la maison a été testé, mais le coût par installation du système pour un conseiller d'un centre d'appel, c'était 8 000 $ par employé. C'était assez important comme investissement, surtout considérant le roulement des employés, le taux de roulement. » Alors, ce que je comprends de Sophie, c'est que finalement, ça n'a pas été vraiment super populaire. C'est sûr que si tu as un grand roulement d'employés, il faut poser la question. Est-ce que tu aurais un aussi grand roulement d'employés si tu étais en télétravail? Peut-être qu'il y aurait un impact qui ferait que ton coût diminuerait. C'est ça qu'il faut voir. Puis il y a plein de monde qui sont intéressés à la chose puis qui peuvent renseigner les employeurs là-dessus. On s'arrête ici. Nos numéros 514-790-9850 et vous faites sans frais le 1-866-790-9850. J'ai Kim, on va parler à Normand là, dans deux secondes. J'ai toutefois Kim qui m'écrit, puis sincèrement, on en parle avec mes invités. Elle écrit télétravail. Moi, je peux vous dire, je suis traductrice. Il y a un travail qui bénéficie, qui peut être plus fait que traductrice au télétravail, là, c'est bien celui-là. Mmh. C'est vrai, là. Traductrice, tu peux faire ça de partout dans le monde. Traducteur, c'est facile à faire de l'étranger, t'as un ordinateur, bon. Et à partir du moment où tu es en communication constante avec ton employeur, je vois pas où est le problème. Elle dit, moi, là, je travaille en entreprise. Ma supérieure ne veut rien savoir de nous laisser travailler de la maison. Même 2-3 jours semaine, là, qu'il y ait une tempête de neige, qu'il y ait une congestion monde, que ma fille soit malade, je dois absolument être au bureau. Elle dit, alors, je voulais juste partager ma frustration avec vous, c'est tout, merci. Mais on comprend, Kim, puis c'est pas le fun.
Puis pour moi, le leadership rime avec confiance.
Comment ça se fait qu'il y a du monde
voqué? Faudrait s'entendre, faudrait se faire confiance mutuellement. Encore une fois, ça s'évalue facilement, le travail d'une traductrice. C'est sur des livrables. Ton texte, y es-tu traduit, oui ou non?
Mais pourquoi
il est
boss voqué comme ça?
Ben, parce qu'on entretient encore un rapport au travail, des fois, un peu traditionnel. Alors, on pense que si tu es au bureau à 8 heures, puis tu sors à 5 heures, que ta performance au travail est meilleure que si tu avais travaillé à l'extérieur. Mais
alors que le présentéisme existe beaucoup au Québec.
Ah ben oui, puis tu peux être assis dans un bureau puis placoter toute la journée avec ton voisin de bureau, là, tu sais, alors que tu peux être chez toi, être beaucoup plus, ou être sur Facebook ou être plus efficace.
Ouais. On a Normand avec nous. Bonjour, Normand.
Oui, bonjour. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Moi, ça fait 30 ans à peu près que je fais du télétravail.
Oh, visionnaire!
Oui. Et je peux dire que je peux faire le double du travail entre 9 et 5. Je peux faire le double du travail qu'une personne fait dans un bureau parce que je suis pas dérangé, j'ai pas de distraction, ces choses-là. Et oui, ça fait visionnaire, ça fait 30 ans. J'ai pas réussi la première fois vraiment embarquer là-dedans.
Pourquoi? Pour quelle raison?
Non, mais pour justement, pour s'ajuster à ça. Ah. C'est toute une autre chose que d'aller travailler, que de faire du télétravail, de s'équiper, ces choses-là. Je m'y suis pris à 2 et 3 reprises avant d'avoir vraiment, là, parce que l'on peut dire que ça fait vraiment peut-être 20-25 ans que je ne fais que du télétravail. J'ai 2-3 clients. Par contre, il y a une discipline qu'il faut qu'on se donne.
Oui, discipline.
Moi, le matin, là, quand je me lève, faut que je fasse comme si je m'en allais travailler.
Est-ce que vous vous habillez comme si vous alliez au bureau? Non, mais c'est important.
Je fais ça.
Il y a du monde, là, si tu restes en mou. Écoute, il y a du monde, si tu restes en mou toute la journée, c'est plus dur. Ouais,
j'admire celles qui sont capables de le faire, mais pas moi.
Hein, Normand, est-ce que vous mettez complet le travail?
Non. Je suis présentement en mou.
Bon, OK. Vous êtes passé à un niveau supérieur. Ouais, j'ai pas atteint ce niveau-là encore.
Non, mais il maîtrise complètement ça, là.
OK. Mais ma femme travaille encore. À l'extérieur. Et le matin, je m'en vais travailler en allant la reconduire.
OK, c'est ça. Vous avez une routine.
Une routine. Le midi, je m'arrange occasionnellement, mais assez souvent, pour aller dîner avec des anciens collègues ou avec des clients. Je peux dire que je vais peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine dîner à l'extérieur avec des gens.
Donc, vous n'êtes pas isolé, Normand, non plus, hein?
Non, absolument pas. Ouais.
Dites-moi, vous êtes quoi? Vous faites de la gestion? Vous faites quoi comme travail?
Je suis en publicité marketing.
OK.
Et j'ai des clients en Amérique du Nord, partout. Je suis appelé quelques fois à sortir, à voyager, mais je dirais que 90% de mon travail se fait de la maison. Et pour ce qui est des coûts et des équipements, ces choses-là, moi, ça fait peut-être 15 ans que toutes mes choses informatiques sont sur un nuage.
Oui, ben, tout à fait, ouais, c'est sûr.
Okay. Fait que je peux aller n'importe où sans ordinateur et je peux me brancher sur mon réseau ou sur
sûr, il faut faire son effort, faut être à la fine pointe de la technologie, puis quand je dis à la fine pointe, pas besoin d'être programmeur, mais il faut savoir comment fonctionnent les objets technologiques qui sont à la disposition du télétravailleur.
Ça
merci beaucoup, jours. Normand, merci. On a Marc avec nous. Bonjour, Marc.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous faites du télétravail?
Oui, j'en fais, mais la raison de l'appel, c'est que la dame qui a envoyé le message texte ou le courriel là, pour dire que son coût était de trop important pour son centre d'appel, vu son roulement. Moi, je travaille pour une compagnie de télécommunications. On a notre centre d'appel, 50% des gens sont à la maison. Puis le taux de roulement des gens à la maison est quasiment nul.
Ah, c'est ça.
Les gens ne vont pas quitter l'emploi. Mm. Quelqu'un qui fait 40 000 par année, tu lui offres la possibilité de travailler de la maison, il vient d'augmenter son salaire de 10 000 $
C'est clair. Vous avez tellement raison, ouais. Marc, parce que ce qu'on oublie de dire, on parle de productivité, mais on a oublié de dire, il y a une question de, savez-vous quoi, peut-être qu'on n'y pense pas, mais notre degré de pollueur, tu sais, on va en parler à 11h05, on va parler de ceux qui ne savent pas gérer leur botch de cigarettes puis de joint de marijuana. mais non, c'est un vrai sujet.
Oui.
Mais je
vais écouter ça.
On n'est pas invité.
Mais tu sais, tu peux rester si tu veux, genre. Mais la gestion, la pollution, je veux dire, tous ces véhicules avec une personne dedans qui s'en va en pestant travailler, ça pollue. Mm-hmm. Les coûts sur les routes, tous ces coûts-là. La congestion, juste sur la couronne nord, juste sur la couronne nord, là, on a évalué, c'est des maires de la couronne nord qui gueulaient de ça l'année dernière, en automne dernier, je vous rappelle, ils avaient évalué que ça coûtait 1 250 millions juste sur la couronne nord, imaginez. Alors, Marc, vous avez raison de dire qu'il y a plein d'autres aspects, là.
Ouais.
Mais pour toi, mais juste même point de vue société, oui, il y a des économies, mais point de vue personnel, c'est là les plus grands avantages.
Mm.
Puis moi, je comprends les gens, les entrepreneurs qui pensent faire ça, ils doivent penser aussi à la qualité de vie, mais il faut que tu le mettes comme un avantage à tes employés. C'est pas une, faut pas qu'ils le prennent pour acquis.
Ouais.
Si les gens le prennent pour acquis, ton taux de... Là, c'est les gens vont slacker, tout ça. Si t'en as 50% des gens qui sont pas en télétravail, puis 50% qui le sont, puis si ton niveau de productivité va augmenter, si tu sais que tu peux le perdre, ton privilège de travailler à la
maison. Exactement. Puis je pense qu'il faut des mesures. Et là-dessus, merci, Marc. Là-dessus, Mario Côté, qui est conseiller en ressources humaines, me parlait pendant la pause de certaines études. Il y a le CIFRIO, entre autres, qui a écrit comme un cadre, d'une certaine façon, hein, c'est ça?
7 documents différents. Moi, je me dis, les employeurs qui se posent la question, devrions-nous aller vers le télétravail? Une réflexion d'envergure faite avec des universitaires, des sondages dans les organisations, des entreprises, du public, du privé. Un excellent dossier. Tout se trouve sur Internet.
Là, j'ai devant moi. Sur le site du CIFRIO, c'est ça?
Le CIFRIO. Si on tape télétravail et CIFRIO, là, c'est les premières choses qui arrivent dans les moteurs de recherche. On parle de tout. Des enjeux, des avantages, des enjeux juridiques,
et
des
de
enjeux
comment
fiscaux.
L'appliquer? Comment l'appliquer?
On suggère quelques pistes. Il y a même des exemples d'entreprises. Ouais, la date.
2001.
Je regarde M. Letourneau.
Mai 2001.
Cette réflexion-là existe depuis 2001. Elle
c'est
est
clair.
Disponible depuis 2001.
C'est clair. CIFRIO, ouais. CEFRIO, bien sûr. Très facile. Facile à trouver. Jean-François, bonjour.
Oui, allô.
On vous écoute.
Je suis tellement d'accord avec ce que le dernier intervenant, Marc, a dit sur l'augmentation de la valeur que peut représenter le travail pour quelqu'un qui fait du télétravail.
Faut pas trop le dire trop fort parce qu'il pourrait être tenté de nous imposer les gouvernements là-dessus. Fait que on le dit pas trop fort, mais on se dit qu'on est conscient de ça, OK?
Ouais, d'accord. Mais c'est ça. Moi, j'en fais. Je travaillais à 5 minutes de chez moi avant. Je travaille maintenant à l'île des Sœurs. Je dois faire du trafic quotidiennement. Par contre, je peux, quand je décide de le faire du télétravail. Et ça a une grande, grande valeur pour moi. Puis mes employés, c'est la même chose. Donc, si une journée, ils préfèrent travailler chez eux pour X raisons, ils ont un rendez-vous, les enfants, peu importe ce qui arrive dans leur vie, ils n'ont pas besoin de le justifier. Il le mentionne tout simplement et puis c'est donné, d'emblée. Et ça augmente le bonheur des gens. C'est ça qui arrive, puis la traductrice qui disait qu'elle était frustrée chez elle, pas chez elle, mais à son travail, qu'elle ne pouvait pas travailler chez elle, ben c'est ça. Je pense que l'employeur n'a pas compris que cette personne-là va être plus heureuse, plus productive avec le temps. Là.
Est-ce une valeur importante pour l'employeur, le bonheur de ses employés? Ça pourrait être une question d'une heure, ça aussi?
Ça, c'est un autre débat.
Ça, est-ce que ton emploi... Tu sais, on dit le bonheur au travail, c'est important. Est-ce que les patrons prennent ça à cœur tant que ça?
Ça dépend des entreprises, ça dépend des patrons.
Et il y a un débat intergénérationnel. Hein? Nos milléniaux nous demandent plus ce type d'accommodement-là que les générations précédentes. Fait que si j'ai un patron qui est baby-boomer, qui a l'habitude, lui, d'être là à 6 heures le matin puis de partir à 6 heures le soir, ça peut être difficile pour lui de saisir que c'est possible d'être performant tout en étant à la maison. Mm-hmm. Mais les milléniaux réclament ce type d'aménagement de temps de travail-là. Ils sont plus efficaces, les milléniaux.
Mais si un patron qui travaille 12 heures par jour au bureau... tu peux pas, il faut se le mettre en tête. Tu ne peux pas demander à tes employés qu'ils fassent la même
absolument
chose.
Absolument d'accord.
Tu ne peux pas.
Non. Absolument d'accord.
Alors, il faut que ça rentre dans la tête.
C'est des mentalités, hein. Puis là, on lutte contre
change,
des personnes.
C'est niveau de culture, ouais.
On a, effectivement. Ouais, on a Pierre avec nous. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Oui, moi, c'est juste pour donner un petit conseil, en fait, à vos auditeurs.
Oui, avec plaisir.
J'ai un bureau à domicile à Montréal. Et on m'avait dit qu'il n'y aurait pas de taxation commerciale étant donné que c'est un bureau à domicile. Et la Ville de Montréal taxe de façon commerciale les bureaux à domicile. Ce qui fait que pour un petit bureau de 480 pieds carrés dans un demi-sous-sol sur le plateau Mont-Royal, ça coûte 4 800 $ de taxes commerciales par année.
Êtes-vous sérieux?
Donc, d'un côté, on nous encourage au télétravail. Mais quand je me suis plaint de ça au service d'évaluation de la Ville de Montréal, on m'a dit en gros, ne vous en faites pas... ceux qui ne sont pas déclarés, on va les pogner pareil. Donc, bravo pour le manque d'ouverture de la Ville de Montréal pour désengorger les routes.
C'est des questions à se poser.
Non, mais attendez, c'est parce que... partez pas, Pierre, j'ai plein de questions pour vous. Parce que là, vous, est-ce que vous avez une adresse civique qui donne sur la rue ou c'est vraiment, c'est chez vous? Puis c'est dans fait, votre sous-sol?
Oui, c'est ça, c'est dans un demi-sous-sol, c'est bien ça.
Mais est-ce qu'il y a une adresse civique où les gens peuvent rentrer par une porte puis c'est zoné commercial?
Oui, mais c'était pas une exigence. C'était pas une exigence. Ça, il aurait pu rentrer directement par mon appartement.
Mais est-ce que c'est zoné commercial? Est-ce que c'est zoné commercial?
L'immeuble en tant que tel est zoné commercial, mais le permis en tant que tel n'est pas un permis commercial. C'est parce que la Ville de Montréal permet l'occupation d'un bureau à domicile maximum un tiers de la superficie de l'appartement. Mais un maximum de 500 pieds carrés. Mon appartement faisait 1500 pieds carrés, ce qui permettait un bureau à domicile de 500 pieds carrés, avec toutes les restrictions, pas d'enseigne, pas de ci, pas de ça, avec les limites de superficie, comme je viens de vous expliquer. Mais 2 ans après, j'ai reçu un compte de taxe de la Ville de Montréal, rétroactif de 9 000 $ parce qu'on m'a dit qu'on m'avait mal renseigné à l'arrondissement du plateau Mont-Royal, et que la Ville s'en fout à partir du moment que je reçois un client chez moi, dans mon bureau à domicile, ça devient, pour eux, commercial.
Un espace commercial.
Les restrictions du bureau à domicile, mais une taxation full commerciale. Je leur ai expliqué que, dans le passé, j'ai connu un paquet de locataires qui travaillaient comme programmeur-analyste, qui gagnaient dans les 100-125 000 par année, et qui faisaient du travail, des sites web, puis de temps en temps rencontraient des clients à leur appartement, dans leur bureau. Et on m'a dit, faites-vous-en pas, on va les attraper eux aussi.
Ben en plus, déjà, on vous l'a dit comme
ça,
textuellement comme ça, inquiétez-vous pas, on va toutes les poignées. C'est une belle mentalité. C'est une belle mentalité.
Oui, puis on veut attirer le commerce. Hein. On dit qu'on est là pour protéger les petits commerçants à Montréal en passant. Oui.
C'est, incroyable, propos, sincèrement. Non, mais je comprends, mais ça incite les gens à se taire, finalement. Regarde. Est-ce que vous recevez des gens chez vous? Non, pas du tout. C'est ça que ça encourage. Ça encourage les gens à pas être honnêtes sur ce qu'ils font. Hein. Si vous ne l'aviez pas dit, ils ne l'auraient jamais su, Pierre.
Pour éviter d'avoir des surprises comme celle-là.
Il l'a su quelque part. Il y a un notaire, le fils de Mme Lise Payette, pour ne pas le nommer, qui a contesté en cours il y a plusieurs années, qui avait son bureau à domicile sur Laurier et qui, après des frais énormes juridiques, là, a gagné sa cause pour ne pas payer de taxes commerciales. Je sais pas si... Mais je présume qu'il recevait des clients à la maison comme notaire. On s'entend?
Oui, sûrement.
Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à s'engager avec des frais d'avocat énormes contre la Ville de Montréal.
C'est sûr. Après,
de toute façon, on paie ses avocats avec nos taxes. Ouais.
Après, c'est sûr que... Il y a la notion de est-ce que c'est zoné commercial ou non. Si c'est dans un immeuble résidentiel... Puis en même temps, je comprends aussi les gens qui disent « Ben oui, mais moi, je suis le voisin... » de Pierre, qui a le bureau, puis là, il dit que c'est un client par semaine, mais dans le fond, c'est 15 clients par jour. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a peut-être eu des abus. Il y a peut-être le voisin qui se plaint puis qui appelle la ville lui-même. Il y a peut-être ça aussi.
Mais c'est pas, comme je vous dis, comme je vous explique, c'est pas un permis d'occupation commerciale. Un bureau à domicile, ce qui est permis à la Ville de Montréal, pourrait se faire sur n'importe quelle rue résidentielle. C'est une loi qui existe, qui permet l'occupation d'un bureau maximum un tiers de l'appartement. Ou maximum 500 pieds carrés.
Et pour ça, vous êtes taxé.
Et pour ça, ça coûte 4 800 $ par année pour 500 pieds carrés.
Incroyable. Ben merci beaucoup. Ouais. On ne savait pas ça.
J'attire l'attention des auditeurs. Le document, les enjeux juridiques du télétravail du CEFRIO, il y a une section du document qui porte sur la réglementation municipale. Donc, on pourrait éviter d'avoir des surprises de ce type-là là, en se préparant correctement. Mmh. C'est peut-être ce qui fait peur aux gens aussi. M. Letourneau le disait tout à l'heure,
là,
on en a de la réglementation
clair,
au Québec.
Là,
donc,
ouais. Ouais. Non, mais peut-être si vous êtes votre propre PME, c'est un autre débat. Il faudrait voir juridiquement de quoi on parle. Mais si vous travaillez pour une entreprise et qu'on vous encourage à travailler de la maison, à mon avis, vous n'êtes pas pris dans
c'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose.
Moins
du
tiers.
Moins spécialiste, là, mais.
Il faudrait
fouiller ça, ouais.
Il faut fouiller ça, parce que si l'employeur est poigné pour payer les taxes municipales reliées au fait que son employé occupe un espace de bureau dans sa maison.
Ouais, non, c'est pas comme avoir une entreprise à la maison, avoir
non,
un commerce
ça.
À la maison.
Je pense que c'est ça la différence. Si vous êtes une PME, c'est une autre affaire, là.
Mais si tu es un travailleur autonome, moi, ce que je comprenais bien, c'est qu'il était un travailleur autonome.
Il occupait un espace plus grand que ce qui est permis dans le règlement municipal. C'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser à ça avant d'agrandir ou de.
Mais
de toute
façon,
on s'entend-tu
que les villes maintenant, quand elles peuvent te prendre, regarde, des contraventions de 169$ hier
notre
à Montréal.
Ah, ça, c'était troublant.
Des profonds,
ben, franchement.
Troublant. Vraiment, là, je.
Oh, boy. Mon Dieu, que le temps passe vite. On est rendu.
Ben oui.
On est. Voyons. Ça passe trop vite en bonne compagnie. On revient tout de suite après. On parle de télétravail comme solution pour désencombrer, oui, effectivement, nos routes. Alain McKenna est journaliste technologique. Il travaille de chez lui depuis tellement d'années que toi, t'es convaincu que ça serait vraiment la chose à faire à court terme.
Oui.
Jacques Létourneau est président de la CSN. Mario Côté, conseiller en ressources humaines agréées. C'est intéressant parce que je viens d'avoir un courriel de Stéphane qui travaille chez CGI, un fleuron de l'informatique au Québec qu'on connaît bien. Un des plus grands employeurs, d'ailleurs, qui dans ce domaine-là. Et là, il paraît qu'ils viennent de donner comme directive, et couper ça, de couper le télétravail au max, apparemment pour créer une meilleure synergie entre les employés. Mm-hmm. Il dit pourtant, on a tous les outils de communication à notre disposition pour rester en contact avec nos collègues. Il me semble que s'il y a une compagnie qui pouvait faire sa part, c'est bien CGI.
Un spécialiste de la délocalisation.
C'est ça.
Ben
qui
ouais,
relocalise.
Ben,
et puis oui, en plus,
mais
merci
peut-être que
de
la
rappeler, Alain.
Mais peut-être que la transition s'est faite un peu à l'improvisation. Je ne connais pas l'exemple concret, là, mais souvent, quand tu n'es pas capable justement de baliser comment tu vas organiser le travail en fonction de cette nouvelle réalité, et puis souvent des entreprises qui ont l'impression que parce que les employés ne sont pas là, ils se font voler. Alors que vous pouvez très bien travailler à la maison et être extrêmement efficace et productif et permettre justement à l'entreprise de faire des profits comme CGI qui fait quelques profits, n'est-ce pas?
Dans le cas de CGI, ça reprend aussi une philosophie ou en tout cas une idée d'entreprise qui était déjà très populaire chez IBM, qui était concurrent direct et qui est certainement une émule l'un de l'autre, qui était justement de faire du télétravail le plus possible, là, vraiment travailler à la maison, travailler d'espace de co-travail, des choses comme ça. Puis il y a peut-être un an et demi, il y a eu deux trimestres en ligne, les résultats n'étaient pas très bons chez IBM, ils ont vraiment tout rapatrié leur argent. Ah,
comme
donc,
si
il y a
c'était
comme
la raison.
Phénomène d'industrie dans ce
comme si on disait, c'est parce que le monde travaille de chez eux, c'est ça?
Il y a une certaine notion peut-être de synergie qui n'était pas là.
Mais pourtant, tu fais bien d'en parler, Alain, parce que tu sais, en Californie, dans la Silicon Valley et tout ça, ça a été des précurseurs de ça. Moi, j'ai des entreprises que je suis comme ça, que je regarde, qui sont des entreprises à mes yeux fabuleuses, comme Patagonia, par exemple. Mm-hmm. Patagonia, écoute, ils ont des bureaux en Californie. Ils ont mis du sable dans les bureaux parce que quand les employés viennent, ils veulent qu'ils aient l'impression d'être un peu à la plage, en vacances et tout. Je trouve ça génial. Mm-hmm. Il y a des tables de billard, il y a des jeux de tout, tu as des salles de créativité. Je veux dire, même chez nous, il y en a qui ont incorporé ça.
Il y a des secteurs où ils essaient des choses comme ça. PricewaterhouseCoopers, qui est quand même une grosse firme britannique, demande maintenant aux gens qui appliquent de donner leur CV et leurs heures de travail préférées, de pas nécessairement faire le 9 à 5, mais de dire à quelles heures vous voulez travailler dans la journée pour incorporer ça dans leur plan de travail. Donc, il y a vraiment il y a du mouvement, là, certainement.
Je pense pas qu'on soit dans un retour. CGI est peut-être une des seules entreprises. Ouais. Je pense que c'est une erreur de faire
mais
ça.
Tu sais, tout à l'heure, Isabelle...
D'ailleurs, ça démotive. J'ai quelqu'un d'autre qui m'écrit, là, qui travaille chez CGI. Mm. Il est complètement démotivé.
Ouais.
Ça se comprend.
Normand nous disait tout à l'heure, ton auditeur nous disait que ça lui avait pris du temps à prendre la routine, ça prenait une certaine rigueur. Je pense que quand on va vers le télétravail, il faut accepter comme patron qu'on va être en période d'apprentissage. Ouais. Puis ça se peut qu'on ait un petit recul à faire, mais de là à aller complètement de l'avant, bar ouvert, travailler de chez vous, sans contrôle, puis après ça, revenez tous au travail parce qu'on ne vous fait plus confiance. Moi, je trouve qu'il y a toute une marge et plein de possibilités. Là.
J'ai Richard qui m'écrit. Moi, je connais un très bon ami qui a quitté CGI à cause, justement, de ce rapatriement des télétravailleurs.
Et d'après moi,
c'est à contre-courant. Ils vont en perdre d'autres, Mario?
Oui.
Incroyable. C'est sûr que, bon, en résumé, je pense qu'on peut dire il faut de la discipline. il faut être encadré minimalement par le patron. Donc, il y a une responsabilité des employeurs ici, si vous êtes employé. Si vous êtes votre propre patron, appelez votre ville ou appelez la poste. Branchez rien. Soyez gentil avec votre voisin d'un coup qui a envie de vous stouler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais sincèrement, j'en reviens pas de l'exemple de Pierre. Merci beaucoup, Alain McKenna. Merci, Jacques Létourneau. Merci beaucoup, Mario Côté. Plaisir. On s'arrête ici. Très courte pause. Tout de suite après la pause, demande comment devenir un fumeur de cannabis éco-responsable.